Et puis voici un héros wallon connu désormais dans la terre entière, ce fidèle pont. Il s'appelle Paul Magnette, vous en avez parlé. Il a prononcé un discours qui fera date. C'est un discours qui a été prononcé le 16 octobre. Et depuis cette date, eh bien, il est aujourd'hui extrêmement regardé sur Internet. Il a été diffusé partout dans le monde, traduit. C'est un discours d'une demi-heure prononcé par Paul Magnette sans notes. Voici un extrait de ce discours.
Ce dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement d'un traité commercial entre l'Union européenne et le Canada. Ce dont nous parlons ici, c'est de toute la philosophie des échanges commerciaux tels qu'ils vont se construire pour les 10, 15, 20 ou peut-être 30 prochaines années. Ça tombe sur le traité CETA, mais la discussion que nous avons, au-delà de toute l'amitié qui nous lie aux Canadiens, est dans le fond une discussion de principe, est une discussion éminemment politique et même à certains égards une discussion philosophique sur le sens même de ce que c'est le commerce et sur la manière dont il faut le mener.
Quoi qu'on en pense, c'est un beau discours et voilà pourquoi, selon Paul Magnette, il faut refuser le CETA.
Alors politiquement, ça n'est pas facile. Évidemment que ça n'est pas facile. On prend des risques, quoi qu'on fasse. On prend le risque soit de s'isoler de sa population, si on veut se dire « Oh, ne nous prenons pas pour plus important que nous sommes, acceptons le traité tel quel, c'est déjà pas si mal, tant pis pour les quelques petites imperfections. » Alors je crois qu'on ne fera que renforcer la défiance déjà très profonde dans le personnel politique et on ne fera que renforcer la défiance encore plus profonde à l'égard des négociations internationales et du commerce. On peut se dire à l'inverse « Disons non, point, c'est tout, et puis allons faire un feu d'artifice en se réjouissant d'avoir fait échouer le bateau CETA. Et quoi demain ? Eh bien demain, tant pis. » Ça ne me paraît pas non plus être une position de responsabilité politique. Par contre, on peut dire non, mais expliquer pourquoi on dit non et expliquer à quelles conditions nous accepterions de négocier à nouveau. Et ça a toujours été notre position et ça reste notre position.
Pour le nouveau transatlantique, qu'est bon pour vous, qu'est bon pour moi. Merci mon tonton d'Amérique, merci ma tata Angela, tafta seta ou bien tes types, autant nous l'écrire en chinois. Faut toujours se méfier des types qui préfèrent quand on comprend pas.
Allez, le CETA, on n'en veut pas, comme le type était un sale type. Voici l'opinion de chanteur d'actu dans son titre, le nouveau transatlantique. 7h42 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Des chiffres, tout est chiffre dans notre vie, des statistiques censées nous renseigner sur la société qui en réalité nous font oublier l'humain. L'exemple le plus célèbre qui demeurera, à mon avis, dans l'histoire de la bêtise chiffrée, c'est le discours sur la courbe du chômage. Allez, un petit extrait.
Nous stopperons la montée du chômage et nous inverserons la courbe du chômage.
Quand, à la Saint-Glinglin ?
Écoutez, non, la Saint-Glinglin, premièrement, n'existe pas. Et deuxièmement, le président de la République nous a fixé ce que j'ai appelé une ardente obligation.
D'ici la fin de l'année, la courbe du chômage s'inversera. Eh bien, tant mieux. D'accord. Comme ça, ça fera une bonne surprise, une bonne nouvelle.
Comme vous le savez, au mois d'août, il y a eu un incident statistique avec un bug de SFR. Cet incident statistique a augmenté la baisse, si je puis dire, au mois d'août. Il va augmenter la hausse au mois de septembre.
Mais le fait du jour, c'est que oui, le nombre des chômeurs a diminué. Je vois bien tous les pinailleurs du monde qui diront oui, mais. Le fait du jour, c'est que après des mois, des années d'augmentation chaque mois du nombre des chômeurs, cela diminue. C'est donc le début de l'inversion.
L'inversion est engagée.
Bonjour Olivier Rey. Vous êtes mathématicien et philosophe. Pourquoi faut-il refuser ce discours ?
Oh bah écoutez, là je crois que la courbe du chômage, on vit avec depuis maintenant 4 ou 5 ans. On n'en peut vraiment plus, quoi. Et en fait, il y a plusieurs choses d'ailleurs dans cette expression. Il y a la première, c'est qu'une courbe ne s'inverse pas. C'est son sens de variation déjà. Bon.
Alors ça, il faut expliquer quand même, parce que pour ceux qui n'ont plus beaucoup de souvenirs de leurs études de maths, expliquez-nous pourquoi une courbe ne s'inverse pas.
Bah la courbe, elle est ce qu'elle est. Si vous voulez, le passé de la courbe, il est inscrit, donc on va pas pouvoir le changer. Donc c'est pas la courbe qui va changer, c'est la manière dont elle varie. Bon.
Déjà l'expression est fautive.
Oui, l'expression est fautive, mais c'est pas ça. Peut-être le plus grave. Enfin bon, la deuxième chose, il faut le dire aussi, c'est qu'il y a une très très grande habileté politique, puisque en fait, je crois qu'entre 2012 et aujourd'hui, il doit y avoir 600 000 chômeurs en plus. Et en même temps, le fait d'avoir polariser l'attention, non pas sur le nombre des chômeurs, mais sur le sens de variation de la courbe, on peut présenter comme un succès le fait qu'elle commence à baisser un tout petit peu, alors même que le nombre de chômeurs a énormément augmenté. Bon.
Alors, donc ça, c'est quelque chose que l'on sait, il y a les mensonges, les gros mensonges et les statistiques.
Voilà, et puis, mais cela dit, la troisième chose, qui est quand même moi qui a beaucoup retenu mon attention, c'est le fait qu'au lieu de parler des chômeurs, on a parlé de la courbe du chômage, c'est-à-dire que les chômeurs ont été complètement effacés, résorbés dans l'indicateur statistique. Et donc finalement, l'indicateur statistique qui est censé nous donner un renseignement sur le monde, en fait, il devient ce par quoi on juge le monde, qui se résorbe en fait à l'intérieur de cet indicateur.
Et ça, c'est un tour de passe-passe que vous évoquez dans un livre, Quand le monde s'est fait nombre. Vous l'évoquez, Olivier Rey, tout simplement parce que vous estimez finalement que ces indicateurs statistiques qui sont là pour nous renseigner sur la société, ils nous font complètement gommer la société. Pourquoi, selon vous ?
Tous autant que nous sommes, on peut dire que nous existons. Et quand on réfléchit un tout petit peu à ce mot « exister », « existence », en fait, l'existence, c'est quelque chose qui nous place en dehors du monde des choses qui se mesurent. Dans l'existence humaine, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incommensurable. Alors certains ont rêvé de transformer le gouvernement des hommes en administration des choses, mais en fait la vérité c'est que nous ne voulons pas être administrés comme des choses et que notre existence justement, par définition même, ne peut pas être enserrée dans des données objectives et en particulier dans des nombres. Alors, en même temps, il faut reconnaître aussi que nous vivons dans de très grandes sociétés et que, par exemple, pour les gouvernants, ils ont absolument besoin de renseignements sur la société qu'ils sont amenés à gouverner. Cette société est d'une extrême complexité, donc ils ont besoin de données très simplificatrices et les nombres sont, en tant que très simplificateurs, utiles pour eux. Et en fait, là, vous voyez l'ambiguïté, c'est-à-dire que c'est précisément parce que les nombres sont extrêmement réducteurs, que précisément les gouvernements en sont aussi avides parce qu'ils ont besoin de données simples.
Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que ces nombres sont finalement des catégories pour percevoir la réalité, qui ne sont pas des catégories naturelles à l'esprit. Vous disiez tout à l'heure, inverser la courbe, ça ne veut rien dire, alors que spontanément, on pourrait imaginer que cela ait un sens. Et en réalité, en cherchant à informer le public, on le perd complètement avec des données qui sont complètement incommensurables. Lors de la grande crise de 2008, par exemple, on parlait de trillions, on parlait de sommes qui n'étaient pas des sommes familières aux individus et qui ne permettaient pas du tout d'appréhender la réalité, Olivier.
Oui, mais enfin, ça, cela étant, quand vous parlez des trillions, justement, en fait, c'est quand même aussi révélateur de la démesure générale de nos sociétés. Et il faut dire que c'est cette démesure générale qui nous rend extrêmement démunis pour appréhender la réalité. Et justement, comme on est démunis, eh bien, on va essayer de se raccrocher à des choses simples, c'est-à-dire à des nombres. Et en fait, là encore, on est dans une ambiguïté vis-à-vis de ces nombres, parce qu'évidemment, nous, en tant que citoyens, on va évidemment se plaindre de cette réduction au nombre. On a l'impression de ne pas être pris en compte dans ce qui fait la vérité de nos existences. Mais en même temps, en tant que citoyens, nous ne cessons d'exiger l'objectivité de nos gouvernants, et finalement, pour eux, le nombre est une manière de prétendre, en tout cas, gouverner objectivement.
Pensez-vous que ce soit conscient ? On a entendu tout à l'heure les commentaires sur la courbe du chômage, alors on voyait l'augmentation qui baisse ou la baisse qui augmente. On voit qu'on a affaire à toute une série d'éléments de langage. Est-ce que vous pensez que nos gouvernants ont réussi à saisir la subtilité de tous ces discours et la manière dont ils peuvent perdre le public ?
Les gouvernants, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Si vous voulez, je vous dis, ils sont placés dans une situation difficile parce que, en fait, on va leur reprocher de ne pas prendre en compte la réalité en se réfugiant derrière des nombres, mais en même temps, s'ils n'avaient pas des nombres à nous fournir, nous leur en voudrions en disant que ce qu'ils disent est totalement subjectif et qu'il faut qu'ils s'appuient sur des données plus objectives. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui était, c'était un Écossais à la fin du 19e siècle, qui avait dit « Les hommes usent des statistiques comme les ivrognes des réverbères pour l'appui qu'elles fournissent plutôt que pour la lumière qu'elles répandent. » Bon, c'est assez vrai, mais cela étant, c'est aussi révélateur d'un certain état de fait où aujourd'hui, justement, on a énormément de mal à se diriger dans le monde tel qu'il est, et donc on se raccroche à ce à quoi on peut se raccrocher.
Alors, on se raccroche à des statistiques qui ont été construites au 18e, au 19e siècle avec les meilleures intentions du monde, puisque à l'époque, il s'agissait donc de mieux connaître la société pour mieux la gouverner. On avait affaire à une physique sociale et tous ceux qui se sont lancés dans la statistique sociale étaient animés par les meilleures intentions du monde. Vous le rappelez, Olivier Rey, dans « Quand le monde s'est fait nombre ».
Oui, non, mais en fait, ce qui s'est passé, la grande explosion statistique en Europe, elle n'est pas si récente que ça. En fait, elle date de la première moitié du 19e siècle. En fait, des années 1820-1830, c'est là vraiment où on a la grande explosion statistique. Et c'est dû à une transformation absolument majeure qu'a connue l'Europe à cette époque-là. C'est-à-dire, en fait, suite à la révolution industrielle qui est partie d'Angleterre et à la révolution politique qui est partie de France, on est passé des sociétés d'anciens régimes qui était extrêmement stratifié, extrêmement structuré, avec des sociétés d'ordre, etc., à des grandes sociétés d'individus. Mmh. Et c'est là où, en fait, aussi se constituer au cours du 19e siècle les très grandes villes avec l'exode rural, l'explosion démographique, etc. Et donc là, on a vraiment un changement d'état de l'humanité. On se retrouve dans une situation qui est complètement inédite, que l'humanité n'avait jamais connue, ces grandes sociétés d'individus. Et la statistique va se développer en tant qu'outil pour essayer de donner des repères à l'intérieur de cette réalité qu'on n'avait jamais expérimentée.
Et alors, quand se rend-on compte que ces indices sont tous des indices piégeurs, puisque là aussi, quelle que soit la manière dont on les utilise, on sait bien que ces indices ne sont qu'un reflet de la réalité sociale et qu'en tout cas, ils ne constituent pas en tant que tels des faits. Rien n'existe comme l'inflation. L'inflation, ça n'est qu'un construit.
Oh bah de toute façon, ça, on s'en rend compte absolument immédiatement. Par exemple, je peux vous citer Jean-Baptiste Say, qui est un grand économiste du 19e siècle, mais en 1803, il écrit « Il suffit d'avoir un peu d'expérience en ces matières pour s'être aperçu qu'avec des tableaux, on prouve tout ce qu'on veut, pourvu qu'il y ait beaucoup de chiffres. » Et il dit « Contre ceux qui prétendent qu'il faut s'en remettre au nombre pour gouverner, il dit « Quand je vois qu'il n'y a pas d'opération détestable qu'on ait soutenue et déterminée par des calculs arithmétiques, je croirais plutôt que ce sont les chiffres qui tuent les États. » Donc vous voyez, il y a deux siècles, on le disait déjà. Hein.
Les chiffres peuvent tuer aussi les politiques, puisque nos politiques ont évidemment les yeux rivés sur toute une batterie de chiffres, de statistiques. Parfois, quand ces chiffres indiquent que ça va mieux, ils le disent, et ça n'est pas forcément convaincant. On écoute François Hollande, c'était en avril dernier.
Alors c'est vrai, quand le président dit « ça va mieux quand il y a tant de difficultés », on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Eh bien oui, ça va mieux. Mais ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire, il y a plus de marge pour les entreprises, il y a aussi plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà ce que j'ai fait depuis 4 ans et voilà pourquoi je vais poursuivre jusqu'au bout.
Ça va mieux parce qu'il y a 1,3% de croissance alors qu'on pensait qu'il y aurait 0,9% de croissance. On dit que ça va mieux et évidemment, ce discours, il passe pas du tout dans l'opinion, Olivier Rey.
C'est-à-dire que là, on retombe sur ce que j'avais dit en commençant, c'est-à-dire que là, c'est un discours de l'administration des choses et pas de gouvernement des hommes. Et si vous voulez, par exemple, que ce qui s'est passé avec le Brexit en Angleterre, on a dit aux Anglais qu'il fallait absolument pas qu'ils votent pour la sortie de l'Europe parce que, précisément, on leur a sorti toute une batterie de nombres qui pour leur faire peur, quoi, qu'ils allaient perdre en croissance, que ça allait avoir des effets sur le chômage, enfin, etc.
On a sorti les mêmes chiffres de l'autre côté, hein, rassurez-vous. On leur a dit également que s'ils sortaient de l'Europe, ils allaient économiser 300 millions de livres. Mais ce qu'ils n'ont absolument pas économisé, le chiffre là aussi a été complètement inventé.
Cela étant, il se trouve qu'à certains moments, si vous voulez, la question des nombres devient secondaire et que c'est la question politique qui prend le dessus. Et là, c'était vraiment une question d'anglais qui voulaient être gouvernés comme des anglais et non pas administrés comme des choses.
Mais alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un autre usage des chiffres? chiffres, est-ce qu'on pourrait imaginer des sociétés telles que les nôtres, qui sont des sociétés complexes? Vous avez expliqué, Olivier Rey, qu'il fallait des chiffres de l'inflation, des chiffres du chômage, parce que sinon, évidemment, nous avancions dans le noir. Il y a eu aussi toute une œuvre salutaire, l'INSEE, par exemple, qui a été créée après-guerre par des gens comme Alfred Sauvy, qui considérait que Vichy avait été en partie la conséquence d'une méconnaissance du social par le Front Populaire, parce que le Front Populaire, par exemple, n'avait pas été capable de prévoir les conséquences de la réduction du travail, n'avait pas vu que la production industrielle française baissait par rapport à la production allemande. Tous ces chiffres étaient importants, ils étaient démocratiques, ces chiffres. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire en sorte que les chiffres soient à nouveau démocratiques ?
Ah bah de toute façon, la démocratie réclame justement des chiffres. Il y a vraiment ça fait partie de si vous voulez, à partir du moment où on est dans des grandes sociétés, on dit c'est le peuple qui doit gouverner, mais évidemment c'est forcément des démocraties à cette échelle-là, des démocraties représentatives. Donc ça veut dire que les gouvernants doivent justifier leur politique auprès des gouvernés et rendre des comptes. Et donc en fait, ces chiffres-là sont absolument essentiels à l'exercice de la démocratie. Et c'est donc là aussi toute l'ambiguïté que l'on a, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen d'un État démocratique, on voudrait être pris en compte dans toutes nos dimensions, y compris dans celles qui ne se mesurent pas, et en même temps on exige de nos gouvernants qu'ils rendent compte et avec des données objectives et donc aussi avec des nombres. Alors après, il y a la question de la fabrique des nombres aussi. On pourrait en parler parce qu'en fait, les nombres qui nous sont délivrés ne sont pas délivrés avec leur mode de formation. Bon, mais en même temps, là encore une fois, on retombe toujours dans une ambiguïté parce que d'un côté, on reproche au nombre d'être donné tout sec et de ne pas vraiment connaître à quoi ils correspondent, comment ils sont construits. Mais si on nous expliquait par le menu comment ils sont construits, on aurait une migraine et en fait, le nombre ne nous intéresserait plus, quoi. Donc en fait, c'est toujours ça, c'est le nombre. On lui reproche d'être simplificateur et on lui demande aussi de simplifier la réalité.
Par ailleurs, ce que l'on pourrait vous opposer, c'est que dans les régimes totalitaires, dans les dictatures, il y a une modification des statistiques. On voit par exemple qu'en Russie aujourd'hui, eh bien Vladimir Poutine a considéré que les instituts de sondage étaient des organisations internationales hostiles aux intérêts russes. On voit aussi qu'un certain nombre de chiffres doivent être manipulés avec précaution parce qu'ils sont construits pour tromper, alors que nous réussissons à nous tromper avec des chiffres qui n'ont pas ce but en quelque sorte, Olivier Rey.
Oui, non, mais en fait, c'est pour ça que je disais que le fait d'avoir une statistique relativement honnête est quelque chose d'absolument essentiel pour le fonctionnement d'une société démocratique. Hein. Ça, c'est extrêmement fondamental. Et l'INSEE, par exemple, est un organe absolument essentiel dans le fonctionnement de la France aujourd'hui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas également un travail de pédagogie à faire, notamment lorsqu'on arrive avec des chiffres qui sont de l'ordre du milliard, de l'ordre du trillion, et qui sont des chiffres absolument indispensables pour comprendre l'économie d'aujourd'hui, avec des questions de taille qui, là aussi, vous sont familières? Est-ce qu'il ne faudrait pas se montrer plus pédagogue, notamment dans les médias?
Peut-être. Ce que je pense aussi, c'est que c'était Walt Whitman, le poète américain à la fin du 19e siècle, qui disait qu'un certain nombre de poètes devraient être intégrés au gouvernement des États-Unis pour faire valoir précisément auprès des autres gouvernants ce qui ne se mesure pas. Et je pense que, si vous voulez, on est dans une situation où il est tout à fait utopique de croire qu'on peut se passer des nombres. Mais il faut se rendre compte aussi que les nombres, en même temps qu'ils nous renseignent sur la réalité, nous masquent énormément d'aspects de la réalité. Et ce seraient ces aspects-là qu'il faudrait davantage faire valoir face aux nombres. Et donc, il faudrait peut-être des représentants du non-numérique, justement, par rapport à ceux qui manient les nombres.
Et cependant, aucun président comme le nôtre n'a lié son destin à des chiffres et à leur évolution.
Quand inverse-t-on la courbe du chômage, monsieur le président de la République ?
Quand la croissance sera là, je pense qu'elle commence à se rendre plus robuste.
Et vous nous avez dit plus tôt dans cet entretien qu'elle était là, la croissance.
Oui, il y aura nécessairement une baisse du chômage. Et je vous ai rappelé quel était mon engagement constant. Je suis lié à cette obligation de résultat. Le chômage doit baisser et la croissance doit être la plus forte possible. Et toutes les réformes que je mène, toutes les actions que j'engage, c'est pour la croissance, pour l'emploi et pour la préparation de l'avenir.
François Hollande restera comme le président normal, mais peut-être aussi comme l'homme moyen au sens statistique du terme, celui qui a le plus utilisé des chiffres pour tenter de nous convaincre du bien fondé de sa politique, Olivier Rey.
Bah oui, là j'ai rien à ajouter.
Effectivement, il y a dans « Quand le monde s'est fait nombre », votre livre, un certain nombre d'exemples éclairants pour montrer à quel point les chiffres peuvent nous tromper. Merci beaucoup Olivier Rey d'avoir été avec nous. Nous retrouvons à 8h20 dans les matins de France Culture un invité exceptionnel puisque le maire d'Alep sera dans ce studio. Il viendra témoigner du sort de cette ville martyre. Il a réussi à sortir de Syrie pour témoigner devant le monde de ce qui était en cours dans cette ville. Il nous expliquera dans quelle mesure la situation contre les armées de Bachar el-Assad, avec une lutte difficile également vis-à-vis d'Al-Qaïda et de ses différentes factions, est en cours aujourd'hui en Syrie. Mais en attendant, il est 8h sur France Culture.